Votre sujet d'aujourd'hui, sujet que vous avez choisi, que vous avez au moins ratifié après que on me l'ait suggéré. Donc il s'agit de la pertinence de l'Ancien Testament pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, membres de l'Église chrétienne. Le « aujourd'hui » n'a pas pour signification dans mon titre un rapport très très particulier à l'année 2006. Hein. Ce n'est pas tout à fait spécialement notre époque par distinction d'une autre génération. Il se peut qu'il y ait certains aspects qui conviennent davantage à notre temps qu'à celui de nos pères, mais le « aujourd'hui » du titre équivaut en gros à « durant l'ère chrétienne ». Il s'agit de savoir ce que l'Ancien Testament doit être pour nous, chrétiens, et le mot « pertinence » signifie essentiellement son importance, la possibilité pour nous qu'il nous soit utile, qu'il puisse avoir des implications, des conséquences pour notre vie de chrétien. Voilà ce que veulent dire les termes du titre tel qu'il a été annoncé. Je lis pour introduire dans l'Épître aux Romains un très beau passage au chapitre 15. J'aurai l'occasion d'y faire référence une ou deux fois sans doute. Je lis les 13 premiers versets, donc de Romains chapitre 15, après quoi nous demanderons encore au Seigneur de nous diriger, si notre frère Guy Coémoun peut le faire, après que nous aurons lu, donc Romains 15, 1 à 13. Si nous sommes forts, nous devons porter les faibles de ceux qui ne sont pas forts, au lieu de faire ce qu'il nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue de ce qui est bon et constructif. Le Christ, en effet, n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais ainsi qu'il est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je dis que le Christ est devenu serviteur des circoncis pour la vérité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les non-juifs glorifient Dieu pour sa compassion. Ainsi qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te reconnaîtrai parmi les nations et je chanterai ton nom. » Il dit encore, « Nations, soyez en fête avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes nations, et que tous les peuples le louent. » Ésaïe dit encore, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Prions ensemble.
Nous voulons te dire, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes, d'écouter ta parole, de la comprendre, pour la mettre en pratique. Seigneur, merci d'avoir été avec vos frères durant toute sa période de préparation de cet enseignement de ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Parle-nous, nous t'écoutons. Amen.
Amen. La Bible de l'Église primitive, ce que les premiers chrétiens avait entre les mains, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore constitué. Peut-être dans telle ou telle église y avait-il une épître, la copie d'une autre, mais c'était à peu près tout ce qui pouvait se trouver par écrit dans les communautés. Et lorsqu'il est question des Écritures, dans le Nouveau Testament lui-même, il s'agit d'abord, en tout cas, de l'Ancien Testament, de la Torah de Moïse, des prophètes les plus anciens, c'est-à-dire ceux que nous appelons les livres historiques, et les prophètes postérieurs, comme les appellent les Juifs, et les autres écrits, avec les psaumes, les proverbes et d'autres écrits encore. Lorsque, dans le chapitre que nous venons de lire, dans le passage du chapitre 15 de l'Épître aux Romains, il est question de l'encouragement qui vient par les Écritures, il s'agit de l'Ancien Testament. À Rome, il n'y avait sans doute pas grand-chose d'autre pour la lecture dans les cultes. Et si ces écrits, d'après l'apôtre, ont été écrits pour notre instruction, c'est aussi l'enseignement qu'il avait donné aux Corinthiens. Vous vous rappelez que dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, il nous est dit que tous les événements rapportés par le Pentateuque sont arrivés pour nous servir d'exemple et ont été donc consignés dans les livres saints pour que nous en tirions profit. Le fameux passage que nous citons si volontiers pour affirmer l'inspiration plénière des Écritures saintes, 2 à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile donc, pour former entièrement l'homme de Dieu. » Il se réfère en fait à l'Ancien Testament, car l'apôtre Paul vient de dire au verset précédent, au verset 15, qu'il s'agit des saints écrits que Timothée connaît depuis sa plus tendre enfance. C'est auprès de sa mère juive qu'il a appris les textes, mais évidemment ce n'était pas ceux du Nouveau Testament, c'était ceux de l'Ancien. Donc, vous voyez, la preuve est surabondante lorsque, dans le Nouveau Testament, il est question des Écritures, pour la première et même encore pour la seconde génération des chrétiens, il s'agissait de l'Ancien Testament. Et ça a été une hérésie particulièrement pernicieuse et dangereuse et combattue efficacement comme telle que celle de Marcion au milieu du deuxième siècle de notre ère qui opposait le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, voyait dans le Dieu de l'Ancien Testament un Dieu méchant, c'est parce qu'il identifiait le mal et la matière, il était influencé par le gnosticisme et comme le Dieu de l'Ancien Testament avait créé la matière, donc c'était un mauvais Dieu. Ce Marcion rejetait l'Ancien Testament. Heureusement, les chrétiens de son époque ont bien perçu le danger mortel que de pareilles idées faisaient courir à la foi chrétienne elle-même. Et on peut tout résumer peut-être quant à ce premier point que je mets en relief à titre d'introduction. Notre Seigneur Jésus lui-même, quand il a entamé son ministère public, a proclamé très clairement, dans le sermon sur la montagne, c'est une sorte de grande charte présentation du royaume qu'il était venu annoncer, que par rapport aux Écritures, il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et que pas un iota, la plus petite lettre, pas un trait de lettre ne tomberait que tout ne soit effectivement accompli. Cette parole nous montre bien l'importance que l'Ancien Testament avait pour les premières générations chrétiennes. Accomplir, cependant, suggère quand même une différence avec le temps qui précédait. Accomplir ne signifie pas abolir, la parole de Jésus l'indique clairement, mais quelque chose se passe qui change le statut de ces livres, qui change le rapport des fidèles du Seigneur à ses écrits. Si nous nous joignons, nous, à Jésus-Christ, si nous sommes ses disciples, lui qui a dit qu'il était venu accomplir, cela implique quand même un changement par rapport aux croyants qui ont vécu sous l'Ancien Testament. Jésus a lui-même parlé de nouvelle alliance, reprenant les termes d'une prophétie de Jérémie au chapitre 31. L'usage de cette expression nouvelle alliance implique qu'avant, eh bien, c'est devenu ancien. en fait l'expression ancienne alliance ou ancien testament, car les deux mots alliance ou testament traduisent le même terme dans l'original. Cette expression se trouve dans le Nouveau Testament. C'est pas une invention postérieure. Dans la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 3, Paul parle de ceux qui lisent dans le judaïsme l'Ancien Testament. Ils le lisent sans comprendre, dit-il. Il y a comme un rideau, un voile sur leur cœur. Le cœur est l'organe de la compréhension dans la Bible. Donc, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ils lisent, mais n'ont pas l'intelligence du sens. Et l'apôtre utilise l'expression même d'Ancien Testament. Aujourd'hui, vous avez certaines personnes qui essayent de l'éviter, parce que ça ne plaît pas aux juifs. Alors certains, même des théologiens évangéliques, j'en ai rencontré, qui préfèrent dire Premier Testament. Mais le Nouveau Testament lui-même dit Ancien, dans ce texte de la seconde Corinthiens au chapitre 3, et il y a même un commentaire au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, qui souligne que l'expression de nouvelle alliance dans la prophétie de Jérémie a donné, je paraphrase, c'est ma façon de traduire, mais a donné un coup de vieux à l'alliance qui était alors en vigueur. Elle l'a rendue vétuste, si vous voulez employer un terme un petit peu moins familier. Mais la conséquence de l'usage de cette expression de nouvelle alliance est tirée expressément par l'auteur inspiré de l'épître aux Hébreux. Et associé à ce contraste entre ancienne et nouvelle alliance, alors nous sommes sous la nouvelle alliance, vous savez qu'il y a pas mal d'autres thèmes que l'on trouve dans les écrits du Nouveau Testament. Il y a le contraste de la lettre et de l'esprit. Dans le même passage de Corinthiens 3, où l'on a l'expression d'ancienne alliance, il y a la formule de l'apôtre Paul, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il y a l'image des ombres. L'Ancien Testament a apporté, nous dit l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 17, et nous dit deux fois l'Épître aux Hébreux au chapitre 8, verset 3, au chapitre 10, verset 1, l'ombre des choses qui alors étaient à venir. Et il faut comprendre cela un peu comme quand on voit approcher, mais sous un angle, quelqu'un de loin, on voit l'ombre d'abord, l'ombre portée, avant de voir la personne, ou éventuellement le camion, l'objet lui-même. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'ombre portée par avance, par la réalité qui arrive dans le Nouveau Testament, et qui est ainsi l'accomplissement des ombres. Voilà l'image employée. L'apôtre Paul en Colossiens 2 dit, allez, c'était l'ombre, mais le corps, la substance, la réalité, dont ce n'était que l'ombre avant-coureuse, c'est en Christ. Et l'Épître aux Hébreux parle de l'ombre des biens à venir. Et même, je pense que ça va encore plus loin, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, dans la première partie du chapitre 4, l'apôtre Paul suggère que dans l'Ancien Testament, c'était un régime de servitude. Alors certes, c'était à titre pédagogique pour un temps seulement, comme quand un enfant est mineur et qu'il est donc soumis à des tuteurs. Il est l'héritier de tout, c'est lui qui est le propriétaire véritable de tous les biens, mais il ne peut pas en user librement, parce qu'il est encore mineur, et il a des tuteurs. Eh bien que le régime de l'Ancien Testament était un régime d'asservissement, comme à des tuteurs, et ça correspond à ce qu'on a aussi dans le paganisme, un esclavage des éléments du monde. Des éléments du monde. Alors l'apôtre Paul y va fort, en comparant le paganisme et la religion de l'Ancien Testament à cet égard. Être obligé de se soumettre à tel ou tel rite, observer des fêtes, parce que c'est en particulier de cela qu'il parle, observer les jours et les années, etc., c'est être asservi à des choses extérieures, à des éléments du monde. C'est le cas dans le paganisme partout, c'était le cas aussi dans l'Ancien Testament. Alors à titre provisoire, comme une mesure que le Seigneur imposait, en attendant la venue du corps, de la substance en Christ. Mais vous voyez que le contraste là est très très fort entre l'Ancien Testament et la réalité nouvelle dont nous vivons. La combinaison de ces deux thèmes que je rappelle donc par toutes mes références rapides comme thème du Nouveau Testament, l'importance de l'Ancien Testament, c'était leur Bible, et d'autre part, le contraste entre Ancien et Nouveau Testament, ben ça fait une complexité. C'est pas si difficile, c'est pas si facile à démêler. Il faut essayer d'explorer la question. C'est pourquoi on a suggéré que nous abordions aujourd'hui ce problème de la pertinence de l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui, chrétiens. Il doit être pertinent, autrement nous n'aurions pas cet accent sur les écritures de l'Ancien Testament utiles pour nous. Et en même temps, c'est pas si simple. Comment est-ce que ça se passe? Essayez de préciser ces choses, de les voir un peu plus clairement. Voilà l'objectif de notre travail aujourd'hui. Alors j'ai trois parties, comme souvent. Une première partie rappellera brièvement trois vérités directrices, trois choses que nous devons garder à l'esprit si nous voulons réfléchir selon Dieu à la question. Puis ensuite, j'essaierai de rappeler ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament, la diversité des parts et des aspects de l'Ancien Testament lui-même. Parce que je crois que nous serons obligés de dire que tout n'est pas pertinent de la même manière. Selon les aspects ou les éléments de l'Ancien Testament, nous aurons une pertinence directe ou très indirecte. Voyez. Donc, essayez de voir quelle est cette diversité interne du Nouveau Testament. Je compte faire un petit schéma au tableau, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on nous pourvoie ce matin du tableau de papier. Et puis, la troisième partie, alors, sera un effort pour cerner la pertinence de six catégories particulièrement intéressantes dans cette diversité interne de l'Ancien Testament. Alors d'abord, donc trois vérités directrices. Donc, c'est pas la peine que je les mette sur le tableau, que vous les retiendrez facilement. D'abord, rappelez ce que j'ai déjà au fond souligné, le Dieu de l'Ancien Testament est notre Dieu. C'est lui le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il se révèle dans l'Ancien Testament d'ailleurs avec son Fils et son Esprit, il est question aussi de l'Esprit qui est le Saint-Esprit, et il est question du Fils de manière plus mystérieuse, mais je crois par exemple que l'ange de l'Éternel, dans un certain nombre de passages, c'est bien le Fils de Dieu qui est ensuite venu en chair, en Jésus, comme Jésus-Christ, avec le nom de Jésus. L'Ancien Testament est sa parole, en gros et en détail, revêtue par là de l'autorité souveraine absolue qui est celle de Dieu. Parce que si quelqu'un est souverainement absolu, quand il vous dit quelque chose, eh bien ce qu'il vous dit a pleine autorité sur vous. On ne peut pas faire de différence entre l'autorité de quelqu'un et l'autorité de sa parole quand il parle. Alors, si l'Ancien Testament est la parole de Dieu, cette parole participe de l'autorité même de Dieu sur nous. Et ainsi, l'Ancien Testament étant la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous dérober, l'éluder, négliger même. C'est une parole qui a pour nous son utilité de vie devant Dieu et selon Dieu. Deuxième vérité, alors là j'ai pas encore vraiment eu le temps de l'exposer, la révélation de Dieu a été progressive. Dieu a choisi d'en user pédagogiquement avec les humains. L'expression de pédagogue, paidagogos, est utilisée pour la loi au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. L'idée qu'il y a une pédagogie divine est très, très clairement énoncée dans l'Écriture. Et vous savez que le pédagogue, il doit tenir compte de la réceptivité de ses élèves, il ne faut pas qu'il y aille trop vite, sinon tout va se mélanger dans leur tête et le résultat ne sera pas très brillant. Et Dieu tient compte des capacités d'apprentissage de ces humains si souvent indociles, si souvent obtus carrément, que nous sommes. Cela est dit d'Israël, peuple au cou raide, ça veut dire rétif, qui ne veut pas apprendre sa leçon. Et Israël a été choisi comme représentant de l'humanité. On pourrait dire que nous avons le miroir de ce qu'est l'humanité en Israël. C'est en quelque sorte le peuple témoin, au sens où on prend un échantillon, qui est l'échantillon témoin de l'humanité. Ce qui est dit du peuple d'Israël tout au long montre quelles sont les dispositions spontanées de notre cœur. Et ça implique que la pédagogie de Dieu a dû être très très patiente, qu'il lui a fallu commencer par les rudiments. Donc c'est assez rudimentaire par moment dans l'Ancien Testament. Et même quant aux règles de vie accompagnatrices, une tolérance a été nécessaire, assez proche de ce qu'on pourrait considérer comme un compromis. J'hésite à employer le mot de compromis. Mais, vous le savez, à propos du divorce, tout facile. C'est peut-être légèrement ambigu, mais en gros, ça a été compris comme ça. Et ça, les textes semblaient le laisser possible. Un mari qui était un peu dégoûté de sa femme, il avait parfaitement le droit de la répudier. Deutéronome 24. C'est comme ça que les Juifs l'avaient compris. Ils considéraient même que c'était un privilège, une grâce que Dieu avait faite à Israël de permettre le divorce si facilement. Il y a eu des rabbins pour dire ça. Ce divorce facile, ouais, c'était, ça semblait facile. Même si Dieu avait donné quand même, dans d'autres passages, l'indication que ça ne lui plaisait pas. Je hais le divorce, a-t-il dit par le prophète Malachi. Mais enfin, il le permettait dans la loi. Et Jésus l'a expliqué, Matthieu 19, en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, avant la chute dans le péché, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas l'intention divine pour le mariage. Mais à cause de la dureté de votre cœur. Donc Jésus a clairement interprété une des dispositions qu'on trouve dans la loi de l'Ancien Testament par ce principe d'une tolérance pédagogique pendant un temps au moins. Dieu a fait en sorte que le moindre mal, qui représente un certain compromis peut-être, soit quand même inclus. Donc, pédagogie progressive. Et puis, troisième vérité, il n'y a pas seulement pédagogie, mais il y a préparation de l'œuvre rédemptrice, accomplissement. S'il ne s'agissait que d'apprendre quelque chose, ce serait seulement de la pédagogie. Mais l'action de Dieu en notre faveur est bien plus que simplement un enseignement. Il fallait résoudre la question de notre péché, de notre dette infinie à l'égard de la justice. Il fallait nous purifier des fautes. C'est pas seulement une affaire donc d'éducation. Et donc pour préparer l'œuvre rédemptrice, Dieu a usé, c'est une bonne part de l'Ancien Testament, de figures ou types. Les réalités à venir ont été annoncées par des images qui en représentaient au moins certains principes. Et on les appelle globalement des types. On parle de typologie. L'Ancien Testament est non pas totalement, mais en grande partie typologique. Et pour apprécier la pertinence de l'Ancien Testament pour nous, c'est bien sûr une vérité qui est très importante, qui va nous guider. Alors ça c'est en quelque sorte encore préparatoire pour nous, ce sont des vérités qui vont nous guider. Maintenant, que trouve-t-on dans l'Ancien Testament? Je vais faire un petit schéma. Je ne sais pas si le micro captera, mais tant pis, je fais un petit schéma pour vous l'indiquer, en suivant une méthode pourront voir. Et... elle correspond à une logique historiquement intéressante, c'est juste un petit à côté de ça. La logique mise en œuvre pour se différencier de celle d'Aristote, qui était la logique classique, par Pierre de la Ramée. C'était un logicien mathématique. Il a adhéré à la réforme et sa logique a été très influente pendant plusieurs générations parmi les protestants. Il a lui-même été assassiné à la Saint-Barthélemy en 1572. Il faisait partie de cette élite du protestantisme français dont vous vous rappelez qu'elle a été massacrée sur ordre du pouvoir royal, mais surtout à l'instigation de Mali et des Guises à Paris en 1572. Et donc ce Philippe de la Ramée, ou forme latinisée de son nom Ramus, a suggéré ce genre de division. Alors, je vais donc poursuivre par division, simplement chaque fois binaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament? On trouve de l'histoire, et on trouve de la règle. Deux grandes catégories, me semble-t-il. Il s'agit d'histoire, bien, bien souvent, ou il s'agit de règles, de normes. C'est la première grande distinction qu'on peut faire. Histoire, il me semble qu'on peut répartir assez facilement. Changer de couleur. Je me suis pourvu même de feutre avec des couleurs différentes. À l'histoire du passé. Récit, donc, récit des choses qui sont arrivées. Ça tient beaucoup de place dans la Genèse, etc. Et puis, l'histoire à venir. Là, c'est la catégorie promesse. Alors là, une bonne partie des textes prophétiques. Et puis, implicitement, mais ça, j'y viens dans ma deuxième division. Vous voyez ? Donc, vous avez le récit et vous avez la promesse, une catégorie qui est importante dans l'étude biblique et dans les commentaires que Paul, par exemple, a livré de l'Ancien Testament. Du côté de la règle, vous avez, me semble-t-il, la règle du croire et la règle du faire. Encore une grande division, double que l'on peut admettre. Pour le récit, j'en reste là. On pourrait tout continuer à diviser, on peut toujours trouver des divisions. C'est là ce qui est un peu amusant quand on utilise cette méthode ramusienne de la division binaire. Mais la promesse, en gros, c'est selon ce que j'ai dit il y a un instant, elle est communiquée de deux façons. Soit par les prédictions, les paroles, soit par les types, les figures. Les types sont aussi des promesses en quelque sorte sous forme imagée et concrète. Un type qui a été mentionné par le Seigneur Jésus lui-même, c'est celui du serpent d'airain. Dans les événements, ce serpent d'airain, dont l'effet était de guérir ceux qui avaient été mordus par les serpents, on voyait en châtiment, de leur désobéissance, grognement, etc., le serpent d'airain suffisait d'un regard tourné vers lui pour être guéri. Et il était en cela un type du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est levé sur le point de la croix, nous guérit totalement du mal du péché par un regard, le regard de la foi, qui se branche sur lui, qui s'attache à lui. Vous savez que c'est cette parole, regarde à Jésus, qui a été décisive pour la conversion de Spurgeon. Spurgeon est encore jeune homme, il avait une éducation chrétienne, etc., mais il n'était pas encore vraiment converti. Puis un jour, une tempête de neige, épouvantable, il va aller à l'église, mais il ne peut plus avancer, etc. Il y a une petite salle dont il voit que c'est une salle évangélique, qui est ouverte, il s'y engouffre, il y a quelques personnes. Un brave prédicateur très bégayant, très fruste qui prêche.
et qui dit « Regardez à Jésus, c'est regardez !» Et ça a transpercé le cœur de Spurgeon. Et c'est là que le Seigneur l'a converti. Et je pense que le Seigneur a spécialement voulu que ce soit par un homme qui n'avait aucun don d'éloquence, un pauvre prédicateur comme ça, que ce très grand orateur a été conduit à la foi. Donc, je reviens. Les types, voyez, un exemple de type avec le serpent des reins, mais bien sûr beaucoup d'autres. Quant au croire, la division pour le croire, je pense qu'on peut faire une distinction. Ce qu'il faut de croire sur Dieu, la révélation sur ce que Dieu est, bon et compatissant, éternel, unique déjà, etc. Et puis sur sa création, sur l'homme et les autres créatures. Voilà une grande division de ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament quant à la règle du croire. Nous savons comment il convient de croire. Et puis, quant au faire, je pense qu'on peut faire la distinction là entre les commandements et les avis. C'est aussi une règle, mais il y a une part très importante de l'Ancien Testament que nous tendons peut-être trop souvent à négliger, qui est l'instruction en sagesse. Alors il s'agit de règles sur faire. Le livre des Proverbes, il nous en donne des règles sur la manière de faire. Mais oui, c'est pas sous la forme des commandements, c'est des avis pour que nous comprenions quelque chose à ce qui nous est commandé et que toute notre optique soit réglée. Lorsqu'on n'a que les commandements, si la situation n'est pas exactement celle qui est prévue dans le commandement, alors, on ne sait plus. Si on a une instruction de sagesse, si on a des avis, alors on est capable d'appliquer de manière souple et analogique les commandements. Donc, vous voyez, vous avez une division là, qui intervient encore. Je distingue encore, et là je vais rompre avec la symétrie, parmi les commandements, ceux qui se rapportent à la conduite individuelle et ceux qui se rapportent à la conduite collective. Dans tous les autres secteurs, on pourrait continuer la division aussi. Hein, on peut toujours trouver des distinctions internes. Mais ça ne me paraîtrait pas utile dans notre travail. Et puis finalement, quant aux règles sur la conduite collective, je distinguerai celle qui concerne la société civile en général et celle qui concerne le culte. Vous voyez, cette manière de diviser binairement la matière permet de se représenter les choses avec une certaine clarté. Et alors, je retiens dans ces diverses catégories que j'ai fait ressortir six éléments comme particulièrement importants pour notre réflexion sur la pertinence. Il y a le récit que faisons-nous du récit? Il y a la promesse. Et il y a ce qu'on pourrait appeler la théologie, la règle du croire. Cela fait une première série de trois catégories. Et puis il y a ensuite, alors, ce qu'on a appelé la loi morale. Il n'y a peut-être pas coïncidence à 100% avec les commandements se rapportant à la conduite de l'individu. Mais en gros, on n'est pas très loin. Les commandements qui se rapportent à l'individu sont ceux qui concernent donc la conduite de tous les jours, avec les motivations du cœur, qui est une question individuelle, les principes que l'on met en œuvre. Donc on recoupe à peu près loi morale et commandement pour les individus. Cela correspond aussi, de nouveau, grosso modo, pas entièrement, avec les 10 commandements, le décalogue. Le décalogue étant le résumé de l'essentiel de la loi, dans tous ses aspects, la loi morale y occupe la plus grande part. Bien qu'il n'y ait pas seulement cela, il y a aussi loi pour le culte, l'interdiction des images, par exemple, ou l'institution du sabbat, qui est à la fois cultuelle et civile, et qui donc n'appartient pas strictement à la loi morale. Mais en gros, on retrouve à peu près cela, avec, loi morale avec cette catégorie, et puis alors la loi civile et la loi cultuelle ou cérémonielle. Ce sont trois catégories très classiquement distinguées pour la loi de l'Ancien Testament. Donc je retiens pour ma troisième partie d'exposé, essentiellement, c'est six éléments que je trouve dans l'Ancien Testament. Et je vous dis alors mon avis quant à la pertinence qu'on peut reconnaître aujourd'hui. Les récits que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Okay. Très grand problème quant à leur pertinence. Ils nous rapportent ce qui est arrivé, c'est la parole de Dieu, nous y croyons. Nous croyons que ces choses qui ont eu lieu se sont bien passées dans la réalité du temps et de l'espace. Et nous pouvons en tirer des leçons, comme nous en tirons d'ailleurs de pratiquement tous les exemples historiques qui sont disponibles. Nous pouvons aussi tirer des leçons d'exemples qui ne sont pas dans la Bible, mais nous pouvons être sûrs que dans la Bible, ce qui nous est raconté dans l'optique de Dieu, avec les éléments les plus intéressants du point de vue de Dieu mis en valeur. Donc nous pouvons tirer d'autant plus des leçons de ce que nous lisons quant aux événements qui ont eu lieu. L'orgueil qui vient au devant de la ruine, la subtilité de certaines tentations, nous voyons comment ça a joué, nous voyons comment David, un homme selon le cœur de Dieu, a été cependant capable d'un faux pas terrible jusqu'au crime, etc. Nous avons des leçons qui nous avertissent, qui nous viennent des événements. Et à ce propos, je pense que j'ai deux commentaires particuliers à faire. On entend dire parfois, oh Abraham, David, c'était un autre monde que le nôtre. Ce qui peut suggérer que ce qui leur est arrivé, alors, n'a pas de pertinence pour nous. Je suis venu à dire, c'est une expression toute faite qui doit être critiquée. En fait, c'est notre monde, c'est notre monde. Je me suis baladé près de Bethléem, mais je me disais, c'est là où le petit David faisait paître ses troupeaux, il emmenait ses chèvres et ses moutons. C'est Pierre, mais elles ont vu David, c'est pas du tout un autre monde. Il y a certains aspects de notre manière de vivre et des outils à disposition qui ont été modifiés, grandement modifiés. D'accord. Mais c'est faux de dire un autre monde, vous voyez. Quand on dit un autre monde, c'est une hyperbole dont on oublie que c'est une hyperbole, une simple façon de parler. Et du coup, on dit, alors c'est pas pertinent pour moi, mais c'est notre monde, c'est le monde de Dieu, dans l'unité d'une histoire conduite par le même Dieu. Et donc, les exemples que nous fournissent les récits de l'Ancien Testament sont pertinents pour nous aussi. En fait, comme nous sommes proches de ces hommes de l'Ancien Testament, nous sentons comment ils réagissent. Mais c'est comme ça, comme nous aussi. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que la manière dont l'histoire est racontée n'est quand même pas exactement la même que celle de nos manuels d'histoire, ou même de nos écrivains. Et il ne faudrait pas projeter sur l'historiographie hébraïque nos habitudes lorsque nous composons des ouvrages d'histoire. Il faut bien le savoir que l'Ancien Testament peut très bien sauter des événements qui, pour nos historiens, sont très importants, et ils ne mentionnent pas, ne pas nous faire d'idées préconçues qui seraient fausses à cet égard. Mais fondamentalement, cela est pertinent, même si c'est plus loin dans notre monde que d'être certaines choses qui sont toutes proches. Deuxième catégorie, promesse. Alors la promesse, sous ses deux formes essentiellement, elle nous intéresse évidemment au premier chef. Parce que je dirais, nous y sommes. La promesse de bien des passages, c'est la promesse de nous. Ces nations qui espèrent dans le rejeton de Jessé, c'est-à-dire le rejeton de la famille de David. Jessé, c'est le père de David. Le rejeton de Jessé, c'est Jésus. Ces nations qui, d'après Ésaïe 11, placent leur espoir en lui, mais c'est nous. C'est nous. Nous plaçons notre espoir en Jésus, bannière des peuples. Donc, nous y sommes dans cette promesse. Elle nous intéresse. Et là, mes remarques, alors, seraient les suivantes. Pour ce qui est déjà accompli de cette promesse, parce qu'évidemment, il va y avoir un autre aspect. Pour ce qui est déjà accompli, on peut dire qu'il y a une relation double, d'entrecroisement. Les prophéties authentifient Jésus-Christ, et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament abondamment. Pascal a dit, la plus grande épreuve de Jésus-Christ est les prophéties. Les prophéties. C'est parce que Jésus a si bien accompli ses paroles qu'il est clair que c'est bien lui qui devait venir. Et réciproquement, ma remarque, Jésus authentifie ses prophéties. Elles sont bien de Dieu puisqu'elles se sont accomplies, cela a été dit tant de siècles auparavant, et cela s'est réalisé en lui d'après le témoignage des témoins oculaires. Oui. Donc nous avons un double rapport d'authentification qui peut nous confirmer dans la foi. Oui. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et une remarque que saint Augustin a faite, aussi Pascal, c'est que c'est tout à fait remarquable. Ces prophéties qui authentifient Jésus-Christ, qui sont authentifiées par lui, elles nous ont été conservées par ceux qui refusent d'y voir Jésus-Christ. Si tout le monde avait bien vu que Jésus-Christ accomplissait ses prophéties, quelques siècles après, les douteurs seraient venus dire, oh, ben oui, mais c'est parce qu'elles ont été trafiquées. Vous avez arrangé ces prophéties pour qu'elles correspondent aux événements de la vie de Jésus. Mais en fait, c'est de la manipulation. L'accusation aurait pu sembler avoir une certaine plausibilité. Mais ces prophéties, elles ont été gardées par les Juifs qui refusent d'y voir l'accomplissement en Jésus-Christ. Leur aveuglement, le voile sur leur cœur à ce propos, garantit en quelque sorte que c'était bien les prophéties telles qu'elles avaient été données des siècles avant par les prophètes. Les Juifs rendent ainsi, dans leur incrédulité, un service à la vérité. Ça, c'est la première contre-remarque. Deuxième remarque, il y a une partie de ces prophéties qui n'est pas encore accomplie. La promesse a été confirmée, la vérité de Dieu dans ses promesses par l'œuvre de Jésus-Christ dans sa première venue, mais il en reste encore une part à réaliser. Tout n'est pas encore accompli quant aux effets de l'œuvre de Jésus-Christ. Tout est accompli, comme il l'a crié sur la croix, quant au prix à payer. C'est pourquoi la victoire est absolument sûre, mais tout n'est pas encore accompli, tout n'est pas consommé quant aux effets qui doivent se déployer. Et donc il y a une partie des prophéties, et alors bien sûr elles sont pertinentes pour nous. Nous essayons de voir ce qui va venir à partir des prophéties de l'Ancien Testament comme de celles du Nouveau. Alors ce n'est pas toujours facile, ça c'est aussi la remarque à faire. Ces prophéties sont très souvent dans un langage symbolique qui emprunte au type aussi, et il s'agit de décoder. Et il n'est pas toujours si facile de le faire, il faut le reconnaître. Une marge de tolérance pour la diversité des opinions à ce propos est tout à fait sage, tout à fait opportune dans l'Église. Troisième catégorie, l'instruction doctrinale sur Dieu et sur nous-mêmes. La règle que j'ai dite du croire, eh bien cela aussi garde Et par exemple sur la Trinité, il n'y a pas encore grand chose de clair dans l'Ancien Testament. C'est pas absent, mais il y a pas, c'est pas très clair. C'est dans, par le Nouveau Testament que nous pouvons avoir vraiment la preuve de la distinction éternelle des trois personnes qui sont pleinement Dieu et un seul Dieu ensemble, etc. Vous voyez? Donc, cela reste pertinent, mais évidemment, c'est à ce propos. Un aspect qu'on peut souligner, je ne développerai pas davantage, c'est que l'Ancien Testament nous permet de bien comprendre certains des concepts, des idées clés que le Nouveau Testament met en œuvre. Le Nouveau Testament a été écrit par des gens donc, qui étaient tout pénétrés dans l'Ancien Testament, pour des églises qui lisaient l'Ancien Testament comme leur Bible, je l'ai dit, et du coup, des concepts clés étaient tout baignés en quelque sorte de souvenirs d'Ancien Testament. Et si nous négligeons ça, nous ne les comprenons pas bien. Je cite simplement un exemple pour montrer la richesse. La notion de rédemption, le rachat. Rédimer ou racheter, ça veut dire la même chose. Hein. C'est la même racine, la rédemption, c'est le rachat. Alors ça avait référence, et tout le monde pouvait comprendre facilement, au rachat des esclaves, par quelqu'un qui payait pour qu'ils deviennent libres. Et ça, bien sûr, ça ne demandait pas la connaissance de l'Ancien Testament pour être apprécié. Mais il y a d'autres éléments de l'idée de rédemption dans le Nouveau Testament très intéressants qui sont liés tout spécialement à l'Ancien Testament, le droit de rachat. Vous le savez, il y avait un proche parent, le plus proche parent, qui avait droit de rachat, qui était le rédempteur. Son rôle revenait en gros à se substituer à une personne décédée dans l'accomplissement de certains de ses devoirs. Comme il était mort, il ne pouvait plus remplir ses devoirs. Et son plus proche parent le remplaçait, se substituait à lui. Il se substituait à lui pour donner une descendance. Il repoussait la veuve pour que ce nom ne soit pas éteint en Israël. Pour racheter la propriété, pour que le patrimoine ne soit pas émietté, désagrégé, pour exercer la vengeance, au sens d'une satisfaction de la justice. C'était laissé à ce système. Donc, vous voyez, c'était une substitution du plus proche parent dans l'accomplissement de certains devoirs. C'est exactement ce que fait le Seigneur Jésus comme notre Rédempteur. Il s'est fait notre proche parent, et en vertu de ce lien dans la chair et le sang, il se substitue à nous, mort dans nos offenses et dans nos péchés, dans l'accomplissement de devoirs que nous ne pouvions pas accomplir. Vous voyez un élément qui vient là de l'Ancien Testament. Quatrième catégorie, la loi morale. Alors la loi morale, qui correspond à une bonne partie du décalogue en particulier, je pense qu'on doit dire qu'elle demeure l'expression de la volonté de Dieu pour nous. Et que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question d'abrogation de cette loi morale pour les chrétiens. Si nous ne sommes plus sous la loi, ça veut dire que nous ne sommes plus obligés d'obéir parfaitement à cette loi pour être agréés de Dieu et échapper à son jugement. Personne n'y est arrivé sauf Jésus. Nous ne sommes plus obligés, nous ne sommes plus sous la loi comme un système qui nous donnerait le titre voulu pour tenir devant Dieu. Ça, c'était désespéré. Mais la loi continue de valoir pour nous comme un guide qui exprime la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, et qui donc nous montre le chemin. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous ne voyez une abrogation de cela. Et c'est ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne et que vous trouvez aussi chez l'apôtre Paul. Donc, la loi morale, fondamentalement, demeure. Et la partie donc des 10 commandements qui sont souvent cités comme de manière en quelque sorte évidente, toujours pertinent pour les chrétiens. Par exemple, Paul en Éphésiens 6, lorsqu'il rappelle le commandement d'honorer père et mère, dit c'est le premier commandement avec une promesse. Il n'est pas en train de de justifier longuement qu'il cite un commandement de l'Ancien Testament pour les chrétiens, oui, pour lui ça va de soi. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Et je pense qu'on peut signaler tout spécialement que le domaine de la sexualité et du mariage est considéré dans le Nouveau Testament comme un domaine où la loi de Dieu demeure, telle qu'il l'a révélée dans l'Ancien Testament. Simplement, c'est radicalisé. Les intentions divines sont poussées plus loin, en tout cas pour les disciples de Jésus. C'est la loi de l'Ancien Testament, mais cette permission du divorce, pour n'importe quelle raison, les disciples de Jésus ne vont pas en user. Voilà ce que Matthieu 5 et 19 montrent assez clairement. Voyez. De même pour la polygamie, c'était aussi une de ces tolérances divines. Mais c'est dans le sens des commandements de l'Ancien Testament. C'est en quelque sorte radicalisé, aiguisé davantage, mais ça reste valable. C'est pour ça qu'il est absolument impossible, il y a de toute façon la confirmation expresse dans le Nouveau Testament, mais que les chrétiens puissent considérer la pratique de l'homosexualité comme acceptable, comme une bonne chose, comme c'est une abomination tout au long de l'Ancien Testament, et ça continue de l'être dans le Nouveau Testament. Donc nous rappeler ça, je pense que la loi morale, en tant que telle, les grands principes, les motivations, l'Ancien Testament reste pertinent avec, en quelque sorte, radicalisation. La loi civile, la loi pour la société, alors elle n'est plus en vigueur. C'est ça la première très grande différence. Il y avait un régime spécial, théocratique, pas démocratique, hein, théocratique, en Israël, et Il s'agissait là, d'après le Nouveau Testament, d'une disposition appartenant à la typologie. Israël, en tant que nation particulière, avec une alliance particulière avec Dieu, était un type de l'Église, qui n'est pas une nation dans le même sens. L'Église est une nation sainte, dans un sens figuré, puisque nous restons aussi citoyens des diverses nations du monde, ce que n'étaient pas bien sûr les Israélites de l'Ancien Testament. Là nous avons une différence qui est assez radicale. Le régime politique de l'Ancien Testament est abrogé. Ce n'est plus celui qui régit les disciples du Seigneur dans le Nouveau Testament. Alors cela ressort de plusieurs éléments dans le Nouveau Testament. De l'ouverture aux nations, qui est en cause donc dans Romains 15, mais qui a été aussi évoqué tout à l'heure. Ce régime spécial d'Israël, avec donc les dispositions politiques correspondantes, ça correspondait à la séparation entre Israël et les nations. L'interdiction de manger ensemble, en tout cas c'est comme ça que les Juifs l'avaient compris. Les nations étaient impures. Les nations, c'est-à-dire les non-juifs, étaient impurs aux yeux d'Israël. Et maintenant, cela est abrogé. Acte 10, la vision que reçoit Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare plus pur. Oui. Et là, c'est une différence formelle. Il y a une transposition qui s'opère. Les paroles dites à Israël en Exode 19, peuple élu, nation sainte, oui, sont transposés pour l'Église dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Et comme l'Église n'est pas une nation à l'évidence, dans le même sens qu'Israël, c'est pas une nation parmi les nations au sens littéral, ça veut dire qu'il y a une transposition, oui, qu'on passe du plan des types au plan de ce qu'on appelle parfois l'antitype, de la réalité spirituelle qui correspond. Alors ça veut dire, et ça fait un gros paquet de l'Ancien Testament quand même, qui n'est plus pertinent de la même façon, que les guerres menées par Israël, avec les armes du temps, hein, mais, qui faisaient couler le sang, que ces guerres de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, elles sont appelées comme ça aussi. Il n'en est plus question pour nous. Nous avons toujours une guerre, mais non plus contre la chair et le sang, non plus avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Plus question de mener des croisades avec des armées pour la cause du Christ, comme malheureusement on s'y est mépris. Mais le Nouveau Testament l'écarte à cause de cette différence fondamentale quant à la loi civile pour la société. Plus question non plus, dans le Nouveau Testament, d'user du glaive de la force contre l'hérétique. Là aussi, la chrétienté n'a pas bien compris, pendant hélas bien des siècles, et ça a été le propre des anabaptistes au XVIe siècle et puis des baptistes au XVIIe, de le faire ressortir. Sous le régime du Nouveau Testament, la société civile, le gouvernement de l'État, n'a plus à imposer une foi. Il pouvait imposer des formes de culte et de foi dans l'Ancien Testament. C'était la mission du roi. Ce n'est plus le cas sous le régime où nous sommes. C'est un baptiste, hein, Roger Williams, qui a fondé le premier État au monde qui a affirmé dans sa constitution la liberté de conscience. L'État du Rhode Island, aux États-Unis, il fait partie des États-Unis, mais il était fondé comme un État avec cette constitution-là. Ça fait partie de nos fiertés de baptistes, mais ça correspond bien à cette abrogation de la loi civile, sociale, politique, comme vous l'appelez, de l'Ancien Testament. Là, ce n'est plus pertinent de manière directe. Alors, pertinent de manière indirecte, je crois que ça reste quand même intéressant à observer. Parce que nous avons un modèle de loi pour un peuple pécheur, dans ce monde pécheur, édicté par Dieu dans une situation donnée. Alors, avec la théocratie, avec, bien sûr, un état des techniques, une situation démographique qui ne sont plus les nôtres, donc il faut transposer. Si nous cherchons, en quelque sorte, des suggestions dans le modèle de l'Ancien Testament pour la société politique, nous serons obligés de transposer beaucoup pour ne pas revenir à la théocratie, pour ne pas faire comme si nous étions une société agro-pastorale, etc. Mais c'est intéressant à étudier. Donc, ce n'est pas sans pertinence aucune, mais la pertinence est indirecte. Et en ce qui concerne la loi cultuelle, les cérémonies, les sacrifices, je dirais la même chose. La loi cultuelle de l'Ancien Testament n'est plus en vigueur. Et elle concernait, pour une très grande part, des types. Les sacrifices, le Nouveau Testament dit très clairement, c'est fini. Ils étaient constamment répétés. Maintenant, l'accomplissement, c'est le sacrifice unique de Jésus-Christ qui rend caduque tout le système sacrificiel. La prêtrise, le sacerdoce, allait avec. Et Hébreu 7 nous dit clairement que ça, c'est fini le sacerdoce lévitique. Une prêtrise séparée du corps du peuple de Dieu, cela n'existe plus selon le Nouveau Testament. C'est la fin du mélange multitudiniste. Dans l'Ancien Testament, justement, c'était une nation, comme les autres en un sens, avec des êtres humains très éloignés de Dieu dans leur cœur, mais qui étaient la nation sainte, et tous devaient participer au culte, et donc c'était le mélange, comme on voit bien dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Cela ne doit plus être le cas pour l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament accomplit ces prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui disaient que dans le temps de l'accomplissement, ils seraient tous enseignés de Dieu, que tous le connaîtraient, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dans le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. C'est le cas de l'Église, où tous les membres doivent connaître Dieu personnellement, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voyez. Ce qui veut dire aussi que le principe de la hiérarchie, séparation, ne joue plus de la même façon. Vous êtes tous frères, dit Jésus lui-même à ses disciples. Ces séparations allaient avec ce système multitudiniste ancien. L'égalité fraternelle caractérise le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Ce qui importe, ce n'est plus maintenant la pureté rituelle, c'est fini, ce n'est pas par l'externe que se distingue le pur et l'impur. Ce qui souille un homme, ce n'est pas de manger sans s'être lavé les mains ou sans avoir fait les rites que les pharisiens considéraient comme indispensables, dit Jésus. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises pensées, les convoitises, etc. Vous voyez, Matthieu 15 est parallèle. Tout ça fait partie de ce changement quant à la loi cultuelle, avec donc les rites de l'Ancien Testament, la circoncision, le calendrier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de pertinence? Non. Pour deux raisons, ou de deux façons au moins, il y a une pertinence indirecte. Ces réalités de l'Ancien Testament étaient des types, des images. Alors, en les considérant, nous pouvons saisir mieux ce qu'il en est de la réalité en Christ. Si nous voyons les diverses classes de sacrifices, par exemple, nous pouvons voir ce qui correspond à ces diverses classes de sacrifices. Donc, il y a des leçons à tirer pour nous. Nous ne sommes plus, nous, invités à offrir les mêmes types de sacrifices, mais certains principes peuvent nous apparaître. Il y a tout l'aspect de l'expression de la piété qui reste en grande partie commun. Les psaumes, par exemple, ils sont aussi pour notre profit. Et nous pouvons y mettre l'expression de notre foi. Et puis, je pense que il y a certains grands principes qu'on peut lire, c'est plus délicat sans doute. Quand l'apôtre Paul dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre » aux Corinthiens, mais un Dieu de paix, un ordre bienfaisant. Eh bien, ça correspond aux règles du culte dans l'Ancien Testament. Comment le sait-il? Parce que Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, il a montré ses exigences en matière de culte. Exigences de bienséance, exigences de bonne organisation, de qualité dans ce qui est présenté au Seigneur. Et je pense que ça peut avoir pertinence pour nous aussi. Donc, considérer ces éléments qui ne sont plus tels quels en autorité pour nous peut être encore enrichissant. Alors, tout ne se tranche pas d'emblée. Il y a parfois des questions un peu à la limite. Quand on essaye de voir ce qui est encore pertinent de manière directe et ce qui ne l'est pas, c'est là que se distinguent les forts et les faibles. Donc, Paul parle dans le passage de Romains 15. Les faibles, c'était des gens qui étaient encore très influencés par certaines règles de l'Ancien Testament, surtout pour la nourriture, qui n'avaient pas réussi à saisir la liberté plénière en Christ. Il fallait les respecter, dit Paul. Les forts, ceux qui avaient mieux compris, mais les forts ne devaient pas les mépriser ou les faire pécher contre leur conscience, en quelque sorte. Donc, il y a une marge de variation dans la compréhension de ces choses et une exhortation à vivre ensemble dans la présence du Seigneur, forts et faibles, mais pour être constamment consolés et encouragés par l'ensemble des Écritures. Voilà, nous avons atteint notre heure maintenant, mais il est peut-être plus sage que je n'offre pas de questions publiques, de groupe sur le sujet, mais si quelqu'un veut me poser une question maintenant individuellement, là il n'y a pas de problème, hein, je suis disponible. vous voulez une...
Oui. Donc en fait, par rapport à ça, dans 1 Jean 2, la proposition dit, alors, Jean 2, verset 20, vous-même, vous avez une option de la femme qui est sainte et tous, vous avez de la connaissance. Et ensuite, 1 Jean 2, verset 27, pour vous, l'option que vous avez reçue de lui demeure en vous, mais vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et quand vous enseignez, vous enseignez toute chose, qui est véritable et qui n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Mm-hmm. En fait, à chaque fois que je dis ça, je vous dis, j'ai plus besoin de cela, par exemple.
Alors, quelle est cette onction dans ce passage? Je crois bien qu'il y a une allusion. Il y a une allusion à Jérémie 31 dans ce passage. C'est le Saint-Esprit. L'expression oint du Saint-Esprit, ça fait bien assez souvent. Le mot onction, c'est un mot image. Il s'agissait de l'huile dont on veut
frottait la peau, dont on pouvait marquer aussi la tête en particulier, comme un symbole, et même le symbole était parti d'un usage tout à fait utilitaire, courant. Se huiler la peau avant de travailler au soleil pour que les muscles fonctionnent de manière bien souple. L'onction, donc, c'est une image. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'onction qui nous est donnée, par laquelle nous sommes les disciples de celui qui est loin par excellence, Jésus, le Christ, Christos. Onction, c'est chrisma, de la même racine que Christos, le Christ dans ce passage. Alors c'est le Saint-Esprit. Alors que dit le texte? C'est qu'il dit que si l'apôtre écrit, et il écrit une lettre d'enseignement, ce n'est pas qu'il ne sache rien, qu'il soit dans l'ignorance, en quelque sorte qu'ils ignorent Dieu, qu'il n'est pas de rapport avec le Seigneur. C'est au contraire qu'ils connaissent Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les enseigne. Il n'y a pas un autre enseignement. Mais le Saint-Esprit, il les enseigne. Et comment les enseigne-t-il? L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'Esprit enseigne par la parole qu'il a inspirée. C'est lui qui l'applique, qui l'explique. Et même par les dons qu'il donne à l'Église pour l'explication de l'Écriture. Donc j'espère, moi, être un instrument du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'onction de celui qui est saint, donnée à son Église pour que, effectivement, elle enseigne toutes choses selon la voix du Seigneur. Merci.
Jacques, oui, alors ceux qui ont à partir, hein, je ne veux surtout pas les retenir de force.
C'est ça. Donc, très brièvement, à propos des guerres à l'éternel et à propos des conflits qu'il y a aujourd'hui dans notre monde, nos interlocuteurs non chrétiens nous enferment souvent dans une unité ancienne et nouveau testament. Alors, tu as dit tout à l'heure, autre monde, autre Dieu, le Dieu de l'ancien contre celui du nouveau, et où êtes-vous, vous qui parlez aujourd'hui et qui devez vous prononcer sur les réalités que vous vivez.
Oui, j'espère que ce que j'ai dit permet au moins de rejeter cette l'insinuation et la manière de poser le problème qui le fausse que tu évoques.
Mais il évacue complètement cette notion de pédagogie.
Oui,
liée à la peur et à... C'est assez difficile de leur faire entendre raison.
Oui. Surtout qu'alors il faut dire que le problème se complique d'un conflit d'interprétation à propos du Nouveau Testament. Si, à mon avis, il est parfaitement clair, et là je l'ai affirmé avec toute la force que je pouvais, et qu'il n'y a plus de guerre sainte, de guerre menée de l'Éternel pour la foi, soit acceptable aux yeux de Dieu sous le régime du Nouveau Testament, ça ne signifie pas, à mon avis, que le service militaire soit interdit aux chrétiens. Alors que vous avez d'autres chrétiens évangéliques qui, eux, croient cela. Alors, ça complique tout débat sur la question. Mais c'est un sujet à part que je n'ai pas essayé de traiter aujourd'hui et qui avait été traité dans le passé de notre institut biblique.
Oui, et puis le rendez à César ce qui est à César, ça peut être interprété aussi comme ça.
Oui, mais oui.
César fait la guerre, et bien...
Voilà, alors c'est une question qui est quand même très complexe, et ce que j'ai dit aujourd'hui n'avait pas pour intention de régler ce point précis.
La séparation des pouvoirs, alors nous pouvons l'asseoir sur quoi? Lorsque je discute.
Tu veux dire la séparation de
à quel moment, en quelque sorte, cette séparation des pouvoirs...
Si c'est le mon royaume n'est pas de ce monde, alors ça a pris en fait... C'est un raffinement, hein, mais ça a pris 40 ans. 40 ans, c'est aussi symbolique bibliquement, ça a pris 40 ans, la fin du régime d'Ancien Testament. Ça commence à la croix, et ça s'achève avec la destruction de Jérusalem et du Temple. En 70, les derniers remous avec Massada, c'est 73. C'est cette période-là qui est une période de transition entre le régime d'Ancien Testament qui ne disparaît pas du jour au lendemain, en quelque sorte. C'est d'ailleurs pour ça que que les hommes du Nouveau Testament ont encore fait quelques offrandes au temple, parce que c'était encore un régime transitoire qui a été complètement aboli avec la fin du temple. Donc je pense que c'est ce qu'il faut dire là, fortement.